Chers frères, il m'est souvent arrivé ces dernières semaines de terminer un entretien téléphonique ou une visioconférence par le souhait « Restez en bonne santé ». Dans les temps difficiles actuels, cela veut dire peut-être aussi « Restez en vie ». L'équivalent en latin serait « vale » que l'on trouve à la fin des lettres de l'Antiquité romaine comme la formule classique d'un adieu, souvent accompagné du mot « vivre »,« vive valeque », »,« vie » et « reste en bonne santé ». Nous avons en allemand cette expression « lebe wohl ». Nous ne devons pas nous étonner donc que Jésus, lors de son grand discours d'adieu, souhaite aux disciples de vivre la vie qu'il leur a montrée et donnée quand il se révélait comme le chemin, la vérité et la vie, comme le vrai berger qui est venu pour que les brebis aient la vie. La vie en abondance. La Bible n'utilise pas le mot « bios », mais le mot « zoé », la vie dans son développement entier, harmonieux et responsable. Ce n'est pas notre vie moderne qui est souvent réduite à ses fonctions végétatives, ou à son utilité économique. La vie, c'est le leitmotiv de l'Évangile d'aujourd'hui. Il contient une phrase dont la force a été un peu perdue dans notre traduction officielle liturgique. Nous avons lu « Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi ». Le texte grec dit « Mais vous, vous me voyez, car je vis et vous vivrez. » C'est le Jésus vivant qui, au seuil de sa passion, dit donc adieu à ses disciples, mais pour l'évangéliste qui rapporte ces mots de Jésus « Vous me voyez, car je vis », ces mots coïncident avec l'expérience des disciples après la résurrection, car ils le voient présent, vivant parmi eux comme le ressuscité. Et c'est cette présence vivante qui les fait vivre ici et maintenant, car passion et résurrection coïncident dans un seul don de vie. Mais de quelle vie s'agit-il? C'est la vie que Jésus et le Père ont en commun. Nous recevons cette vie car personne n'est jamais lui-même l'origine de sa vie. La vie, on la reçoit. Cela vaut aussi pour la vie de la foi. Recevoir cette vie de la foi, c'est pouvoir entrer dans l'intimité d'amour insondable entre le Père et le Fils. Et cette vie devient vie en nous, dit l'Évangile. Recevoir cette vie, c'est voir et connaître le Fils et le Père dans leur amour commun. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. La vie et l'amour commun du Fils et du Père, nous l'appelons esprit. C'est l'esprit de vérité, ce don inaliénable, la présence divine qui sera toujours avec vous, dit Jésus, et que Jésus désigne comme un autre défenseur. On aurait pu traduire aussi un autre consolateur qui soutient ses disciples dans la situation d'angoisse. Parakalin veut dire encourager, réconforter, aider autrui à rester ferme dans le danger. C'était sans doute difficile pour les disciples d'accepter ce départ de Jésus, de réaliser qu'il s'agissait d'un adieu au seuil de la mort. Et Jésus le savait, il dit « La tristesse remplit votre cœur ». Mais il leur promet donc la continuation de sa présence par l'Esprit, l'autre consolateur ou défendeur qui le représente, qui prendra le parti des disciples dans des situations où ils sont confrontés avec l'injustice de ce monde, quand ils seront menacés et accusés, quand ils auront besoin d'encouragement dans leur détresse. Cet esprit, défenseur, consolateur, c'est aussi l'esprit de vérité qui continue l'œuvre révélatrice de Jésus. Il vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'esprit est donc le guide par excellence pour les disciples dans un monde où ils risquent de s'égarer. Il vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit comme la présence permanente de l'amour entre le Père et le Fils nous est vraiment donné pour ce temps du monde, le temps qui dure, le temps de notre vie, entre Pâques et Ascension. C'est un temps qui est plein de tensions, une tension entre le ciel où le Christ nous attend, et la terre qui nous retient encore. Je crois que nous ne pourrions pas supporter ces tensions s'il n'y avait pas la promesse de l'Esprit de vérité, l'Esprit créateur qui renouvelle nos esprits, qui renouvelle la terre. Nous en avons besoin de cette promesse de l'Esprit consolateur pour pouvoir supporter les tensions quotidiennes de notre vie, surtout aujourd'hui, quand nous réalisons plus que jamais que tous les systèmes administratifs et les sécurités globalement institutionnalisées, politiques, économiques, sanitaires et même religieuses, ont réduit notre vie à ces dimensions de bios, et ils se mettent à vaciller. Combien nous avons besoin des mots avec lesquels Jésus avait commencé son discours d'adieu, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est aussi cette voie que nous indique la première lettre de saint Pierre que nous avons lue comme première lecture. La lettre, elle aussi, s'adresse à une communauté chrétienne dans la diaspora, une minorité mise en question. Elle est appelée constamment à rendre raison de son espérance. C'est la situation permanente de la vie chrétienne. On est toujours en quelque sorte devant le tribunal, celui de notre conscience, mais aussi celui de l'opinion publique, de l'ambiance laïque qui gère le monde. Comme chrétiens, nous sommes mis en question, objet de calomnie, de mépris, d'accusation, et c'est une souffrance. L'apôtre Pierre rappelle que le Christ l'espérance des chrétiens, ce Christ a passé lui aussi par les souffrances et les injustices du monde, mais qu'il a été vivifié par l'Esprit. C'est pourquoi les chrétiens peuvent rendre témoignage de leur espérance et en présenter une défense, une apologie, avec douceur et respect, pas uniquement par les arguments théologiques, mais surtout par leur bonne conduite, agathi anastrophe. On pourrait traduire la bonne inversion des choses qui serait l'opposé de la catastrophe qui marque souvent notre vie quotidienne. La présence de l'Esprit du Père et du Fils donne une nouvelle certitude, une raison d'être et d'espérer, un logos, une saine rationalité, je dirais, qui nous aide à résister avec la force de la foi au diable, qui nous aide à faire du bien humblement, sobre et vigilant, comme Jésus nous l'a montré. Ce temps de Pâques, cette tension entre Pâques et Ascension et Pentecôte, un grand théologien, Dietrich Bonhoeffer, a écrit dans sa prison, quelques mois avant qu'il soit assassiné, il a écrit ces mots que je mettrai à la fin de cette homilie. Il dit: Pâques, Socrate sut mourir, mais le Christ vainquit la mort en tant que le dernier ennemi. Savoir mourir ne signifie pas encore vaincre la mort. Savoir mourir est du domaine des possibilités humaines. La victoire sur la mort s'appelle résurrection. Ce n'est pas l'ars moriendi, mais la résurrection du Christ qui fera souffler un vent nouveau et purificateur sur le monde actuel. Si quelques hommes croyaient cela réellement, et si leurs actes terrestres en découlaient, beaucoup de choses changeraient. Vivre en fonction de la résurrection. Voilà ce que signifie Pâques. Ne trouves-tu pas que la plupart des hommes ignorent de quelle source ils vivent au fond? Est-ce que nous le savons ?